Poutine, les relations russo-chinoises, a déclaré le président russe, ont atteint le point culminant de leur histoire. Une déclaration d'amitié, voire d'amour, dans un entretien au journal chinois Le Quotidien du Peuple, à quelques heures donc de l'arrivée de Xi Jinping à Moscou. Un bon vieil ami avec qui les relations sont les plus chaleureuses, ajoute Vladimir Poutine.
C'était le grand amour affiché par les temps qui courent. Il y a quand même eu un conflit entre les deux États. Donc c'est quand même une grande nouveauté, là, ce rapprochement qui est mis en scène par les deux leaders. Non, la relation a été très très chaotique. Et donc on peut un peu s'étonner de ce rapprochement par les temps qui courent.
Vous voyez l'expression, une des expressions favorites du leadership chinois, la stratégie gagnant-gagnant. Ça cache toujours quelque chose.
Involontairement.
Ça cache toujours quelque chose. L'emploi de ce type d'expression, bien sûr, aujourd'hui, c'est à l'avantage de l'un et de l'autre. Mm-hmm. Bien sûr, et je crois que ce n'est pas totalement faux, Vladimir Poutine n'a pas tort de dire que c'est quasiment un point culminant dans leur relation en termes de commerce, notamment. Mm-hmm. Enfin, la Russie est beaucoup plus dépendante de la Chine que la Chine est dépendante de la Russie. Et puisqu'on parlait des alliances, je crois qu'il y a un point qu'il faut effectivement, je pense qu'on insistera tous les deux dessus, il n'y a pas d'alliance militaire entre les deux. Une alliance a un sens, c'est un engagement de défense dans un sens et dans l'autre. La Russie n'a pas du tout envie de s'engager dans la capture de Taïwan, par exemple, et la Chine n'a absolument pas envie d'aller défendre la Russie contre l'OTAN. Ça n'est pas une alliance, y compris parce que la Chine n'aime pas les alliances. Elle en a quand même une avec la Corée du Nord. C'est sa seule alliance militaire.
Effectivement, c'est l'une des grandes craintes, puisque vu le potentiel économique de la Chine, ça pourrait potentiellement renverser un peu les cartes. Néanmoins, au regard des conséquences que ça aurait pour la Chine, et notamment au regard de son commerce avec les États occidentaux, c'est quand même une hypothèse qui, pour l'instant, est relativement peu crédible, puisque la Chine ne souhaite clairement pas, dans ce conflit, souhaite rester dans une espèce de neutralité pro-russe, on va dire, c'est-à-dire ne pas vraiment s'engager derrière Moscou.
Donc pas d'aide militaire, pas d'aide financière non plus. La Chine n'aide pas du tout la Russie.
Il y a une aide financière indirecte, puisque Moscou achète énormément d'hydrocarbures à la Russie, donc ça c'est sûr, mais par contre il n'y a pas de livraison de matériel militaire en tant que tel.
Est-ce qu'on en est sûr? Oui. Il y a probablement des drones, mais il y a certainement des circuits imprimés, des semi-conducteurs pour remplacer ce que la Russie ne peut plus trouver sur le marché mondial pour ses armements. Moi, je dirais qu'il y a une aide militaire. Il n'y a pas de livraison de matériel lourd. Il n'y en aura probablement pas pour les raisons que vous mentionnez, mais il y a dans les faits une aide militaire discrète.
Le plan de paix, c'est pas un plan de paix, c'est une liste de points. Et le premier point porte sur l'intégrité territoriale et le respect de la souveraineté. Bon, il y a quand même un problème, là, déjà, d'entrée de jeu. Ouais. Donc, ça me paraît un petit peu étrange. Cela étant, peut-être ne faut-il pas non plus complètement laisser de côté la possibilité que la Chine joue un rôle. Il faut peut-être lui laisser un petit peu d'espace pour faire quelque chose, pour tenter en tout cas quelque chose. Bon, moi, je ne crois pas à une vraie médiation. Et peut-être peut-on espérer quelque chose de la part de la Chine. Mais le plan de paix tel qu'il a été présenté...
Il est pro-russe.
Oui, mais ça n'est pas un vrai plan de paix. Il faut quand même pas s'y tromper là-dessus. Mais c'est une déclaration de la Chine et une volonté de la Chine de jouer un rôle. Moi, je vois plus ça comme une déclaration un peu rhétorique. Et la Chine est assez douée en la matière qu'un véritable plan de paix.
Oui. Ceci n'est pas un plan de paix. Oui. C'est une initiative politique destinée à améliorer l'image de la Chine. Point.
Absolument.
Je dirais qu'il n'y a pas d'équivalent à ce partenariat. Effectivement,
d'accord,
c'est extrêmement important pour la Russie. Le consensus des experts, c'est quand même de dire que la Russie, quel que soit le scénario, sera de plus en plus dépendante de la Chine. On l'a dit tout à l'heure, c'est désormais le partenaire junior, comme l'on dit, alors que dans les années 1950 et 1960, jusqu'à la rupture, c'était l'inverse. Mais aujourd'hui, plus la Russie s'éloigne de l'Europe, plus elle se rapproche de la Chine. Qu'on ne dise pas, on pourra en reparler, que c'est de notre faute et que nous poussons la Russie dans les bras de la Chine, je pense que c'est une expression qui ne tient pas compte des dynamiques propres et des intérêts propres de ces deux pays qui sont quand même les premiers à décider ce qu'ils veulent. Mais je crois qu'il y a véritablement un mouvement presque historique.
En tout cas, elle ne veut pas la défaite de la Russie. Je ne sais pas si elle veut la victoire de la Russie, mais elle ne veut pas la défaite
de
la Russie.
Cette ambiguïté-là, vraiment.
Oui, parce que pour le coup, en fait, je pense que la guerre présente peut-être éventuellement des intérêts pour la Chine, dans le sens où ça mobilise les Occidentaux. Mais d'un autre côté, en fait, une vraie défaite, ça mobilise les Occidentaux en dehors, enfin très loin de Taïwan. Mais néanmoins, il n'empêche que cette guerre, si jamais il y avait une vraie défaite de la Russie, ça affaiblirait la Russie. Donc potentiellement, ça pourrait avoir des impacts à très long terme, surtout si la Russie, si jamais il y a un changement de régime, par exemple, si on se projette un petit peu loin et donc avec une Russie qui potentiellement pourrait revenir un petit peu dans le giron occidental. Ça a aussi quand même beaucoup renforcé les Occidentaux. Il y a une vraie solidarité qui s'est recréée. Donc il est très clair que dans cette affaire, je ne dirais pas que la Chine veut la victoire de la
Russie. Mais malheureusement, s'il y a victoire de la Russie, pour la Chine, ça veut dire quoi ?
C'est a priori peut-être pas l'hypothèse la plus probable, mais en tous les cas, il est certain que si on se projetait, si jamais il y avait une victoire en trois jours de la Russie, je pense que ce serait rentré un petit peu dans le playbook, on va dire, de la Chine pour dire, regardez, finalement, il est tout à fait possible de faire un peu table rase de l'ordre international tel qu'il existe. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On voit bien qu'au contraire, les démocraties occidentales essayent de renforcer un petit peu leurs alliances et la prééminence de ce modèle. Et donc, effectivement, là, maintenant, l'objectif de la Chine, c'est que la Russie ne perde pas fortement, en tout cas.
Il y a un gros désaccord sur l'Asie centrale, par exemple. Ça, c'est quand même un gros problème. Autrement, je pense qu'ils ne sont pas du tout d'accord non plus sur ce qu'ils veulent faire. Et là, il me semble qu'il y a une volonté de la part de la Russie de remettre complètement en question l'ordre établi. Donc la Russie, elle est vraiment, comment peut-on dire, révisionniste, en quelque sorte, ce qui n'est pas le cas de la Chine. La Chine s'inscrit dans l'ordre établi. Et finalement, elle a été un grand bénéficiaire de l'ordre tel qu'il existe aujourd'hui. Donc la Chine n'a pas du tout intérêt à remettre comme ça, cela complètement en cause. Cela étant, ce que la Chine veut faire, c'est réformer à la marge, ça oui. Mais vraiment renverser complètement la table, il me semble que ce n'est pas la volonté de la Chine. C'est la volonté de la Russie qui veut absolument tout mettre à bas. Et donc là, il y a vraiment deux options qui sont assez diamétralement opposées.
Totalement opposées. Moi, je parlerais plutôt de différence de méthode. La Chine a une stratégie extrêmement patiente d'infiltration des institutions internationales, de changement d'influence dans la production des normes internationales. Elle y parvient d'ailleurs en partie, assez bien. Elle a réussi à avoir des Chinois à la tête de certaines organisations internationales. Donc je crois qu'on peut parler d'objectifs convergents et de méthodes différentes.
Oui, moi, je ne serais pas d'accord. Il me semble que vraiment, il y a une volonté du côté de la Russie de renverser complètement cet ordre établi. Alors que la Chine, soit elle l'amende à la marge, soit elle infiltre, elle noyaute. Ça, c'est vrai. Mmh. Et puis, à côté de ça, c'est ça qui est assez intéressant, elle joue sur plusieurs tableaux en même temps. Parce qu'à côté de l'ordre établi, elle a aussi créé de nouvelles institutions à sa main.
Oui.
Donc il y a une combinaison de tout. Mais la Russie, me semble-t-il, est beaucoup plus radicale. Et elle aurait une vision... Enfin, peut-être ne suis-je pas assez...
Elle a quand même...
Elle est plus révolutionnaire.
Elle est plus révolutionnaire en Europe.
On peut peut-être vous mettre d'accord sur le fait qu'il partage une sorte de détestation pour les valeurs occidentales.
Absolument.
Démocratie, humanisme, droits de l'homme, ça paraît très loin d'ailleurs.
Dans les faits, c'est une grande amitié, un partenariat anti-libéral, plus qu'anti-démocratique, parce que la définition de la démocratie, la notion de démocratie aujourd'hui, elle est relativement consensuelle. C'est dans son mode de mise en œuvre que les débats commencent. Et pour ajouter un mot à ce qu'on disait tout à l'heure, très justement, à propos de ce que je souhaite ou ne souhaite pas la Chine pour la guerre en Ukraine, moi j'ai une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que la Chine veut une Russie boucle d'or. Ni trop faible, ni trop forte. Mm-hmm. Vous savez, comme dans le conte, comme dans l'histoire. Parce qu'une Russie trop forte, ça pourrait donner à Moscou des appétits nouveaux vis-à-vis des exigences qu'elle pourrait avoir vis-à-vis de la Chine. On pourra reparler aussi, on est passé trop vite sur l'histoire, mais on sait très bien qu'il y a quand même une méfiance des deux côtés héritée de l'histoire. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop faible, parce qu'une Russie affaiblie et chaotique qui ne pourrait plus être à la fois ce réservoir économique, enfin de matières premières et d'hydrocarbures pour la Chine, et qui pourrait éventuellement causer des débordements à sa frontière, ça serait un problème pour la Chine.
Alors, peut-être pas exprimé complètement clairement de la part des Chinois, mais c'est quand même quelque chose d'assez ancien. Et d'ailleurs, pour le coup, on parlait du plan en 12 points que proposait par les Chinois, et même globalement leur stratégie globale de sécurité qu'ils proposent. Ça apparaît très clairement. Ils dénoncent la logique de ce qu'ils appellent la logique de bloc, les sanctions unilatérales. Donc tout ça vise l'OTAN. Et d'autant plus que, en fait, on voit bien que notamment les Américains essaient de renforcer des alliances tout autour de la Chine, hein, avec l'Inde, AUKUS avec l'Australie, le Japon, etc. Donc, il est très clair que je pense que les deux régimes partagent, en tous les cas, le sentiment que l'Occident, déjà n'accorde pas leur place que ces deux pays méritent, et d'autant plus, et en plus de ça, que c'est finalement cet Occident cherche un petit peu à leur nuire en ayant des alliances qui les encerclent en quelque sorte.
Un discours classique des dirigeants autoritaires, mais aussi de certains pays dits du Sud, qui ne sont pas satisfaits, et à certains égards, on peut les comprendre, des grandes institutions internationales telles qu'elles ont été mises en place après 1945. Mais l'OCS n'est qu'une grande, une très grande, vous avez raison de le souligner, peut-être la plus grande organisation de coopération. On y fait de l'économie, des infrastructures, un petit peu d'antiterrorisme. Je vous rappelle que l'Inde, vous l'avez dit, on l'a vu, l'Inde en fait partie. L'Inde n'a absolument pas envie d'être un allié de la Chine, certainement pas. De la Russie, elle est un pays, un très grand ami, un quasi-allié, un très grand partenaire. Donc ça ne sera pas, ça pourrait être un jour, je ne sais pas, l'équivalent.
C'est pas un gros bloc qui peut faire.
Non, c'est pas un bloc. Non, c'est éventuellement on va dire, l'équivalent de l'OCDE, l'Organisation de coopération de développement économique, s'il fallait absolument trouver une analogie. Je rappelle par ailleurs, juste parce que je pense que c'est pas anodin, quand on a parlé du discours de Poutine, attention, c'est pas...
Il y a un mois, le discours, il y a un mois.
Le discours, il y a un mois. Oui. Ce qu'il vient de dire, c'est ce que pense 25% du Parti républicain aux États-Unis. Donc attention, c'est un discours dont il sait qu'il porte en Occident.
Discours décadentiste.
Ouais. Voilà, c'est un discours qui porte dans une partie des sociétés occidentales.
Alors, que ça dure, je ne sais pas. Il y a en tout cas une certitude, c'est que si d'aventure il est avéré que la Chine fournit des armes lourdes à la Russie, alors là, ça change complètement.
C'est encore une possibilité.
Ça change complètement la donne. Mais là, ça changera complètement et fondamentalement la donne.
Y compris sur le plan commercial, on est très dépendant.
Oui, mais c'est toujours pareil. Là, la dépendance, c'est interdépendance. Hein, et c'est un peu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc, on dépend de la Chine, mais la Chine dépend aussi très lourdement de l'Occident et de l'Union européenne. Donc là, ça serait vraiment un moment stratégique s'il y avait constatait de manière certaine qu'il y a fourniture d'armes. Mais autrement, je pense que la grossière erreur serait de traiter Chine-Russie comme un seul bloc homogène. Ça, à mon avis, c'est une erreur, parce que les défis qui sont posés par l'une et l'autre ne sont pas de la même nature.
C'est plus globalement, en fait, il y a un changement de ton des Américains depuis quelques années vis-à-vis de la Chine. On sent bien que c'est le rival stratégique vu par les Américains sur le long terme. La Russie, finalement, c'est un adversaire à court terme, en fait, qui pose un vrai problème de sécurité en Europe. Mais les Chinois sont vraiment l'adversaire à long terme. Et quand vous disiez qu'on continue le business avec les Chinois, c'est peut-être pas si vrai que ça. On voit déjà que sur les semi-conducteurs, les Américains essaient de prendre des limitations, en tous les cas, de commerce pour éviter
par peur d'espionnage.
Voilà, par peur d'espionnage, et invite aussi d'autres pays, notamment les Néerlandais, à fournir finalement des technologies un petit peu moins avancées aux Chinois. Ouais. On voit aussi qu'il y a une tentative, finalement, de contrer les nouvelles routes de la soie chinoise par l'Union européenne et par les États-Unis pour justement essayer de rattraper un petit peu ce sud global et éviter qu'il ne s'aligne d'une façon ou d'une autre avec la Chine. Cette rivalité stratégique, pour le coup, elle se met en place et elle va, à mon avis, être amenée à se renforcer avec le temps.
Bruno, la Russie, c'est la météo, la Chine, c'est le climat. Ouais. C'est une formule d'un diplomate britannique d'il y a quelques années qui résume assez bien la manière dont on pense aujourd'hui à Washington, de manière assez consensuelle, les défis du XXIe siècle. Autrement dit, la Russie est un énorme problème immédiat, stratégique et littéralement existentiel pour certains de leurs alliés européens, en Europe de l'Est. Mais à long terme, la compétition sino-américaine, voire l'affrontement entre les deux pays, c'est ça qui devrait... pas prescriptif, mais en tout cas prospectif, c'est ça qui devrait structurer la géopolitique des...
C'est ça qui est structurant dans
les 30 prochaines années, au moins.
Mais
pourquoi?
Je reste sur vos positions.
Pourquoi
trop à perdre?
Ça serait compliqué pour la Chine. Et là, la Chine ne peut s'engager dans cette affaire que si elle est sûre de gagner.
La Russie peut faire des coups de poker, comme elle a fait avec l'Ukraine, et je partage assez le diagnostic prospectif de Françoise Nicolas. La probabilité est faible, mais je pense que ni elle ni moi ne dirons « ça ne se produira pas ».